Bonsoir. Province du Nord Kivu, des violents combats entre l'armée loyaliste et les rebelles présumés du M23 sont signalés depuis 3h du matin tout autour des collines stratégiques de Runyoni et Tianzu en groupement Djomba dans le territoire de Rutshuru. Selon les sources dans la région, les rebelles du M23 auraient attaqué sur tous les fronts les positions des FARDC dans la zone. Pour l'instant, les deux collines de Tianzu et Runyoni sont passées sous contrôle des rebelles du M23 selon les sources coutumières de Djomba. Quelle lecture faire de ces nouveaux affrontements entre les FARDC et les M23? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 28 mars 2022. Participe au débat Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Maître Lumbulumbu, bonsoir.
Bonsoir, madame Kéline Coutin.
Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Jean-Claude Mbabazé, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir débatteur et bonsoir aussi à tous les auteurs de la radio Capi.
Et Pierre Boisselet, coordonnateur des recherches sur la violence en RDC pour l'Institut Ebouteli, nouvelle structure nationale, partenaire du groupe d'études pour le Congo, Jacques en sigle. Pierre Boisselet, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir aux co-débatteurs et bonsoir aux auditeurs.
On est aussi avec votre ligne téléphonique, Pierre Boisselet. Vos nombreuses réactions, auditeurs des radios Capi, nous les avons reçues. C'est le cas de Josué Kakule Mutseke. Après la défaite militaire du M23 et la signature d'un accord entre ce dernier et le gouvernement congolais, on constate aujourd'hui la reprise des hostilités. Ceci porte à croire que cette affaire est toujours latente et nécessite que le gouvernement s'y penche en vue d'y apporter une solution durable et définitive. À Rutshuru, dans le Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.3. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, au Nord Kivu, des violents combats entre l'armée loyaliste et les rebelles présumés du M23 sont signalés depuis 3h du matin, tout autour des collines stratégiques de Runyoni et Tianzu en groupement Djomba, chefferie de Bwisha, territoire de Rutshuru. Selon les sources dans la région, les rebelles du M23 auraient attaqué sur tous les fronts les positions des FARDC dans la zone. Pour l'instant, les collines de Tianzu et Runyoni sont passées sous contrôle des rebelles du M23, selon les sources coutumières de Djomba. Les points avec vous, Gabriel Wamenia.
C'est aux environs des 3h du matin que les rebelles supposés du M23 auraient attaqué simultanément toutes les positions tenues jusque-là par les soldats loyalistes dans les collines stratégiques de Runyoni et Tianzu. Après d'après combat entre l'armée et les rebelles, les deux collines sont passées sous contrôle des combattants du M23, affirme le chef de groupement de Djomba, Kachuki Jackson, que nous avons joint ce matin.
La situation sécuritaire vraiment est très grave.
Est-ce que vous confirmez la prise de ces deux collines stratégiques par les M23?
Oui, je le confirme parce que la population a quitté depuis le matin à 6 heures.
Pour l'instant, aucun bilan de ces affrontements n'est disponible, mais d'intenses combats se poursuivent tout autour de ces collines selon les mêmes sources. Le chef de groupement de Djomba parle d'un déplacement massif de la population. Tous nos efforts pour avoir la réaction du porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 n'ont pas abouti. Mais dans sa mise au point d'hier dimanche à Radio Okapi, le lieutenant-colonel Njike Kaiko a affirmé que toutes les positions tenues par les FARDC sont consolidées et les FARDC y resteront le plus longtemps possible. Fin de citation. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Capi.
Merci Gabriel pour ce reportage. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vous êtes vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Quelle est la situation en ce moment dans le territoire de Rutshuru?
Merci encore une fois, Madame Kéline Couté. J'aimerais porter d'abord une précision par rapport au contenu de mes propos. C'est que vous savez que nous sommes dans l'état de siège. L'Assemblée provinciale étant suspendue, mais le mandat des députés n'étant pas suspendu. Donc, le propos que je vais avoir dans cette émission n'engage pas l'Assemblée provinciale et m'engage moi comme député provincial.
Comme député provincial, quelles sont les dernières informations que vous avez de ces affrontements entre les M23 et les forces loyalistes?
Les dernières informations que je viens d'avoir à l'heure, même avant de commencer l'émission, c'est que d'abord l'on confirme l'occupation des collines de Tchanzu et de Runyonyi par les M23, mais également Bunagana serait sous menace si l'armée n'intervient pas le plus rapidement possible. Bunagana est vraiment sous menace. Je voudrais d'abord exprimer toute ma compassion à la population en déplacement en ce moment, la population venue de Runyonyi, de Tchanzu et de Bunagana. Vous savez, Bunagana, c'est une cité qui est habité par une population nombreuse à la suite de l'existence des activités économiques à Bunagana. Donc je voudrais adresser toutes mes compassions, toute ma solidarité à cette population en déplacement, dans l'espoir que dans les heures qui suivent, l'armée congolaise devra revenir à charge et permettre au retour à la normale. Alors, je voudrais signaler d'abord que pour comprendre les attaques du M23 ces derniers temps, si lorsque vous essayez de faire une analyse depuis que le président Félix Fantôme qui se quitte à la tête du pays. Je crois que ça doit être la troisième ou la quatrième fois que nous subissons les attaques du M23 sur les collines de Runyonyi et de Tchanzu. Ce sont des collines qui se trouvent dans le gouvernement de Djomba et vous savez que Djomba partage la frontière avec les pays voisins, notamment d'une partie nous avons le Rwanda, nous avons l'Ouganda. C'est que ces attaques interviennent dans un contexte où d'abord il faut les signaler, le gouvernement de la République démocratique du Congo est en train de préparer l'arrivée de sa sainteté le pape, notamment au Nord Kivu, et qui devrait passer dans quelques territoires selon les informations à notre possession. Ça c'est un élément qu'il ne faudrait pas négliger parce que ce n'est pas pour rien qu'ils attaquent exactement en ce moment. C'est une question de faire entendre leurs revendications, essayer de monter les enchères et mettre le gouvernement dans une position où il devra nécessairement négocier pour rencontrer leurs revendications. Pourtant, que je connais, qui avait déjà trouvé satisfaction, parce qu'à l'époque, on avait demandé au 23 de se muer en parti politique, il s'était mué en parti politique. L'accession au poste d'État, au poste de responsabilité, ne se fait qu'à travers les partis politiques. Il faut passer par les élections, comme nous l'avons fait. Donc, il n'y a pas d'autre moyen d'accéder au poste politique que par les élections. Par ailleurs, on sait que l'un des membres du M23, quelqu'un qui vient du M23, occupe aujourd'hui un poste stratégique, c'est celui de la commission de démobilisation, le désarmement et réinsertion communautaire. Ça, on le sait. Donc, le premier élément, c'est l'arrivée du pape, qui on est un élément.
Ils avaient demandé aussi d'occuper certaines fonctions au sein des FRDC.
Bon, évidemment, l'occupation de certaines fonctions. Vous savez, la loi sur l'armée, pour le moment, interdit à ce que les recrutements se fassent à partir des groupes armés. Si nous avons connu des infiltrations et qui semblent affaiblir aujourd'hui notre armée, c'est parce qu'il y a eu des recrutements à travers les mixages et d'autres processus que nous avons connus. Et ce qui font assez que dans l'armée, dans la police, on a recruté des personnes sans formation, sans éthique, et cela fait partie des faiblesses de notre armée. Et nous pensons que sur cette question-là, le gouvernement doit être ferme. Il est hors de question de continuer à recruter les gens parce qu'ils ont pris les armes. On ne peut pas continuer à rétribuer ceux qui prennent les armes contre les concitoyens pour les donner des grades de généraux, des colonels et des grades de ministres dans le gouvernement, alors qu'il y a des concitoyens qui sont victimes, qui veulent accéder au poste d'État par les élections ou encore par des mécanismes de recrutement normal au sein de l'armée. Donc j'étais en train de dire l'arrivée du pape de sa sainteté, le pape François est un appât, c'est un enjeu pour eux pour faire passer leur message. Mais il ne faudrait pas oublier une chose, Madame Kelly. Depuis ce temps, nous constatons, c'est vrai qu'il est bon et c'est très indiqué que les bonnes relations entre les pays puissent émerger entre Kigali et Kinshasa, mais il y a un rapprochement très très fin entre Kigali et Kinshasa aujourd'hui. Et moi, je crois que quelque part, ça ne peut mettre que les forces armées de la RD Congo dans une sorte de léthargie parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que, pendant que nous sommes en train d'être attaqués régulièrement par le M23, on le sait, le M23, c'est un groupe armé qui a été mis en place par le Rwanda, il est équipé par le Rwanda, il est commandé à partir du Rwanda. Ça, personne ne l'ignore au Nord Kivu. Donc, lorsque le M23 arrive, c'est plutôt un message de Kigali vers la République démocratique du Congo. Et il suffit, pour le moment, de se mettre l'idée que de l'autre côté, les forces ougandaises sont entrées en appui au FRDC pour mettre en déroute les ADF Nalu, alors que Du côté du Rwanda, il y a une sorte de résistance, évidemment, il y a une résistance de la population de voir les forces rwandaises entrer encore une fois au Congo pour traquer les FDLR. Est-ce que ce n'est pas un message de Kigali pour dire, écoutez, vous devez nous écouter également pour que les forces armées rwandaises entrent au nord Kivu pour traquer les FDLR? Donc il y a également ce rapprochement entre Kigali et Kinshasa que nous ne semblons pas comprendre, les tenants et les aboutissants, qui peut être aussi à la base de ces incursions répétitives d'un 23. Le troisième élément me semble être l'organisation de l'armée. Nous devons reconnaître que la RD Congo, nous avons les militaires les plus efficaces du monde, madame. Notre armée, c'est parmi l'armée la plus efficace, mais le problème qui se pose avec notre armée, c'est la logistique. Nous sommes dans l'état de siège. Le chef de l'État a décrété l'état de siège pour donner un espace à l'armée de se mouvoir de la manière la plus efficace. Nous avons été avec les députés nationaux ici à l'Assemblée nationale qui nous ont renseigné que l'argent est envoyé régulièrement pour que les militaires puissent être dans des conditions où aucun groupe armé ne doit continuer à faire de la blague dans la province du Nord que vous. Mais nous sommes au regret de constater que le M23 peut continuer à se promener alors que l'argent vient régulièrement dans la province du Nord Kivu à l'armée pour que les hommes des troupes se trouvent en état psychologique de combattre à tout moment. Donc il y a également cette question de l'organisation de l'armée. Il faut qu'on se pose la question, l'argent qui vient du gouvernement ici à Kinshasa destiné aux hommes des troupes là au front à Beni, à Lubero, à Masisi, est-ce que cet argent l'air arrive? C'est l'occasion d'inviter l'IGF de pouvoir enquêter pour savoir s'il n'y a pas de détournement de l'argent destiné aux hommes de troupes, parce que ce n'est pas possible quand même que la République soit en train de décaisser des sommes énormes pour le compte de la sécurité et qu'il n'y ait pas amélioration. Donc le troisième élément me semble être l'organisation de l'armée qui traverse un certain nombre de problèmes qu'il faut sur lesquels il faut réfléchir. Donc ce sont ces trois éléments-là que moi je trouve comme étant le soubassement, n'est-ce pas, de ces incursions répétitives de Vien 23, surtout dans les groupements Djomba.
Alors maître Jean-Paul Lumbulumbu, on sait qu'il y a eu un accord entre le gouvernement et le mouvement M23. Malgré cet accord, on sait que l'armée congolaise a continué à attaquer les positions des M23. Et le week-end dernier, ce mouvement, donc le M23, dans un communiqué, a estimé que les opérations de l'armée congolaise contre ces combattants traduisent sans doute le choix définitif du gouvernement de la RDC d'en découdre avec le M23. Est-ce que ce n'est pas pour répondre à toutes ces attaques des FRDC sur les positions du M23, qu'ils ont décidé ce matin de foncer aussi, d'attaquer les positions de l'armée loyaliste?
Moi, je ne peux pas justifier ici les attaques d'un groupe rebelle contre les forces loyalistes, encore que je sais qu'il y a eu des accords. Accords au terme duquel il a été demandé au M23 de s'unir en parti politique. Il y a un parti politique qui a été créé et qui se retrouve sur la liste des partis politiques reconnus en RDC Congo. Vous le savez, je suis président national d'un parti politique, le PLD. J'ai eu le temps de consulter la liste des partis politiques. Sur cette liste se trouvent des partis politiques qui viennent du M23. C'était parmi les accords. Il est vrai qu'il était entendu que certains militaires du M23 devraient être intégrés. Mais la loi est au-dessus de tous. La loi sur l'armée, la loi organique sur l'armée interdit formellement, madame, que les recrutements continuent à se faire à partir des rébellions. Ça, c'est une façon de fragiliser notre armée, de faire infiltrer notre armée par des éléments qui viennent du Rwanda. Et c'est ce qui fait les malheurs des Congolais aujourd'hui. Quelque part, que le gouvernement s'assume sur cette question-là, de ne pas accepter l'intégration des militaires qui viennent du M23 dans l'armée, ça sera fragiliser notre armée encore pour des dizaines d'années. Cette armée qui est en train de faire ses efforts pour combattre les ADF Nalu dans le territoire de Beni, elle devra maintenant redonner son attention aux attaques du M23 à Runyonyi. Ça montre qu'on a l'intention de déstabiliser toute la province du Nord Kivu sur le plan sécuritaire. Et rassurez-vous que la population du Nord Kivu n'est pas d'accord avec ça. Je vous parle comme député et donc représentant de cette population qui n'est pas d'accord avec ce genre d'attaque-là.
Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru. Alors qui vous, vous qui êtes sur place à Rutshuru, Jean-Claude Mbambazé, dites-nous comment se présente la situation.
Oui, merci beaucoup madame. Avant de répondre à votre question, permettez-moi aussi de m'acquitter ces grands devoirs de lancer au CMSA des condoléances à la famille de la défunte Mouré Katete qui vient de succomber pendant cette journée à cause d'une bombe larguée par les assaillants du M23 et qui d'ailleurs n'a pas eu la chance d'être inhumée pendant qu'il était en, on était en train de l'inhumer. Et il y a eu encore des crépitements de balles et les corps viennent d'être abandonnés à la tombe. C'est des choses vraiment qui nous attristent sévèrement. Et donc, pour lancer un message de condoléances à sa famille. Également, un message de compassion à toutes ces populations qui sont aujourd'hui obligées d'aller encore en errance pendant que c'est la saison de pluie. Il y a des enfants sur la rue, il y a des femmes enceintes, il y a des vieillards sur la rue. C'est des choses vraiment qui nous attristent plus sérieusement. Alors, en revenant à votre question, madame, je voudrais en tout cas vous dire que la situation elle est vraiment très confuse, comme l'a dit l'honorable Jean-Paul Lumbulum, que je salue d'ailleurs en passant. La situation elle est vraiment catastrophique. Au moment où je vous parle, je peux vous dire que donc toute la localité de Tchandou, Rumioni, les villages de Kisiza, les villages de tous ces villages-là, de Nyarubara, un peu partout, les populations ont quitté la zone. C'est vraiment un désastre sérieux. Nous vivons vraiment un moment très difficile de l'histoire de notre territoire de Rutshuru.
Alors, les populations ont quitté tous ces villages. Est-ce que ces villages sont occupés par les M23?
Ah, bien entendu, ces villages sont occupés par les M23. Donc, il y a la commune de Tanz, bien sûr, avec Rumioni, mais avec les localités voisines. Les M23 sont en train de circuler librement dans toutes ces localités. Et ces mouvements-là, c'est qui a même obligé, en tout cas, aux populations de quitter par peur d'être pris entre le feu de ces M23 avec le feu de nos vaillants militaires et frères.
Donc en ce moment, il y a des combats, des affrontements qui se poursuivent entre les FRDC et les M23.
Oui, pendant que je venais juste pour cette émission, il faut vous dire que les combats venaient de reprendre après à 2 ou 3 heures d'accalmie. Les combats viennent encore une fois de reprendre. On entend vraiment des bombardements du côté des FRDC qui se sont organisés pour essayer encore d'aller réoccuper toutes ces collines. Donc, madame, je vous en prie, qu'il y a encore vraiment crépitement des balles dans tous les sens. Et voilà, donc même les peu de population qui restaient, qui étaient encore au niveau de Bunagana, viennent aussi de se disperser en prenant aussi la direction vers l'Ouganda.
Alors, en parlant de Bunagana, nous apprenons que cette localité est aussi menacée. Maître Lumbulumbu l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous confirmez cela?
Oui, la localité elle est menacée. Si vous voyez donc la localisation d'abord de ces grands centres de Bunagana par rapport aux collines de Tchanzu et Rumioni, donc on sent que stratégiquement c'est vraiment un coin qui est en tout cas dans les viseurs de ces gens de M23 comme ils l'ont toujours fait. Et quand vous voyez donc l'itinéraire qu'ils sont en train de prendre en quittant la commune de Tchanzu, vous se dirigez vers la paroisse qui se dirige en tout cas vers la paroisse de Diomba et notre colonne veut se diriger du côté de Bunagana. Il faut en tout cas dire que la menace elle est sérieuse et elle mérite une attention particulière de la part de nos militaires chargés encore une fois de sécuriser et d'affronter ces groupes armés.
Jean-Claude Mbambazé, comment vous expliquez ces nouveaux affrontements entre les FRDC et les M23?
Bon, comme l'honorable venait de le dire, il faut toujours dire que c'est une façon, ils veulent seulement se faire entendre et peut-être comme ils ont tenté de négocier et que rien n'a marché par rapport à ce qu'eux voulaient, qui visiblement semble être en dehors de prescrit de la loi. Alors, ils veulent imposer maintenant au gouvernement de les écouter et d'accepter ce qu'eux veulent. Et de là, ils doivent maintenant chercher à occuper des localités. Et là, maintenant, ils vont négocier en état de position de force. Parce que pour l'instant, le fait qu'ils ne sont pas positionnés en état de force, ils n'avaient pas aucune localité qu'ils contrôlaient. C'est que pour eux, c'était vraiment une façon de fragilité par rapport à l'acceptation de leurs revendications. Donc nous pensons en tout cas que c'est une façon de vouloir imposer au gouvernement d'accepter ce qu'elles veulent qu'on accepte. Parce que, même quand vous voyez par rapport à ce qu'ils ont écrit dans leur communiqué de 25, ils ont écrit clairement qu'ils voulaient une reddition sans condition. Nous, on attendait que les M23 se rendent sans condition, comme ils l'ont dit, Mais curieusement, on se réveille, on est sous le feu et on se demande exactement est-ce que réellement les gens, ces gens-là, ils savent ce qu'ils cherchent, ou alors à un moment donné, on se dit aussi, mais le gouvernement aussi, tout un gouvernement qui ne sait pas vraiment mater à un groupe armé comme le Hamas, mais on se dit, on est où? Pourquoi? Parce que, en tout cas, on a, comme le Mboulou l'a dit, nous avons vraiment une armée très disciplinée, d'ailleurs, que je présente vraiment, encore une fois, mes félicitations par rapport à au travail qu'elle est par exemple en train de faire sur le terrain avec les maigres moyens. Je peux vous dire que les gouvernements, en tout cas, nous, au niveau de la population, nous qui vivons ces actes de la guerre, nous pensons que les gouvernements pensent que la question du M23 ou la sécurité du territoire de Routou et même de l'Est n'est pas leur préoccupation. Ils sont préoccupés par autre chose. La vie des populations n'est pas leur problème. Et à un moment donné, nous, la population, nous pensons que nous allons nous répondre au gouvernement. Non, trop, c'est trop, ça ne va pas. Nous avons besoin de la sécurité comme toutes les parties de notre pays.
Est-ce que vous voulez dire par là que vous avez l'impression que cette question est traitée avec beaucoup de légèreté ou pas beaucoup de sérieux?
Oui, évidemment, madame, la question elle est traitée avec beaucoup, beaucoup de légèreté. Je voudrais vous rappeler, comme tel qu'elle a dit, Laurent Bouloum, ces attaques du M23 ne datent pas d'aujourd'hui. L'année passée, on a subi une attaque, vous rappelez encore la chronologie, on avait commencé par Tianzhou. Et après, c'était Runyoni. Après Runyoni, c'était Bukima. Après Bukima, c'était Ngugo et Nyesisi. On a perdu d'ailleurs un vaillant colonel dont je salue la mémoire, le colonel Ndoume, qui est mort sur le champ de bataille. Et après ça, ils sont encore rentrés, ils reviennent encore une fois. Mais madame, avec toutes ces attaques en répétition, si on avait un gouvernement sérieux, il aurait pris comme des dispositions sérieuses pour empêcher, encore une fois, que ces attaques que reviennent. Et que donc, ils étaient prévenus que les M23 sont là. Là où j'ai toujours dit que là où les M23 sont, c'est des milliers qui sont localisés, ou en tout cas, les FARDC ne peuvent pas manquer de moyens pour y arriver. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on ne va pas les traquer juste dans la profondeur pour qu'on mette fin à leur mouvement? Et que donc, ça, c'est vraiment une question qui est traitée avec beaucoup de légèreté. Malheureusement, c'est nous, la population, qui en souffrons. C'est nous, la population, qui en pâtissons. Alors que, franchement, on est innocents. Ces populations-là qui, aujourd'hui, sont sur la rue. Et pourquoi ils doivent mériter, là, ces souffrances-là, alors qu'ils sont dans un État qui est quand même dirigé, où on a un gouvernement, on a les parlements, on a l'armée, on a la police, on a tout. Mais pourquoi on doit mériter ça? Donc, nous pensons que vraiment, comme vous l'avez dit, c'est la légèreté de la part du gouvernement. Nous avons une frontière avec tous ces pays-là, une frontière qui est porose, les gens entrent comme ils veulent, mais il faut aussi dire, comme l'honorable l'a dit, de l'autre côté, donc quand vous voyez là où c'était localisé les positions, c'est juste à la limite avec le Rwanda. Et nous connaissons le Rwanda tel qu'il est organisé. Il ne peut pas accepter qu'un groupe armé qu'il ne soutient pas soit dans cette zone. C'est que il y a aussi quand même cette complicité, ou alors c'est le Rwanda qui vient. Mais également, quand on voit comment les relations se font aujourd'hui, le gouvernement semble être qui nous dit qu'il est en très bonne relation avec le Rwanda, le lendemain c'est M23 qui nous attaque et qui bénéficie des soutiens. On se dit que le gouvernement se moque de sa population, et nous à Routou nous pensons qu'en tout cas le gouvernement se moque de nous, et il est grand temps que le gouvernement nous respecte, nous la population, parce Merci. Que sans nous le gouvernement ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui.
Pierre Boisselet, vous êtes coordonnateur des recherches sur la violence en RDC pour l'Institut Bouteli. C'est une nouvelle structure nationale partenaire du groupe d'études pour le Congo, GEC en sigle. Quelle lecture vous faites de ces nouveaux affrontements entre les FARDC et les M23? Est-ce que vous pensez comme Jean-Claude Mbambazé et Maître Jean-Paul Lumbulumbu qui pensent que c'est une sorte de pression sur le gouvernement pour faire entendre leur revendication?
Oui, absolument. Je pense que ça fait effectivement partie des facteurs qui ont amené à cette résurgence du M23. Juste pour rappel, et M. Mbambazé l'avait aussi dit, c'est une résurgence qu'on observe maintenant depuis plusieurs mois. Ça a commencé en novembre dernier, le 7 novembre dernier. On a vu déjà à l'époque plusieurs positions des FARDC attaquées par le M23. Il y a eu ensuite une position de l'ICCN, les gardes du parc de Virunga, qui ont aussi été attaqués. Et à chaque fois, on a constaté que ce groupe avait réussi à s'emparer d'armes et aussi aussi d'autres formes de fourniture. Donc, depuis lors, on a vraiment la sensation qu'il y a une tentative de reformer un véritable mouvement.
Pierre Bosselet, quand on parle M23, on voit les Rwandais. Ces derniers temps, on a vu un rapprochement entre Kinshasa et Kigali. Mais pourquoi, selon vous, les M23 continuent à attaquer les positions des FRDC et occuper certaines localités du Nord Kivu? À la recherche de quoi?
Alors, je voudrais juste nuancer un tout petit peu certains points qui ont été faits là-dessus. D'abord, effectivement, le M23, historiquement, pendant la crise de 2012-2013, avait soutenu fortement le M23, et c'est un des facteurs qui alimentait cette rébellion. Et d'ailleurs, un des facteurs qui ont permis après d'y mettre fin, c'était justement qu'il y avait beaucoup de pression internationale sur le Rwanda, qui les ont forcés à arrêter ce soutien. Donc ça, c'est pour l'aspect historique. Maintenant, sur ce qui se passe depuis novembre, à mon niveau, je n'ai pas de preuve du soutien du Rwanda au M23. Il est possible, bien sûr, compte tenu du passé. On sait aussi que leur quartier général se situe sur le mont Sabinyo, qui est à la frontière avec le Rwanda et aussi avec l'Ouganda. Mais voilà, à ma connaissance, et sauf si Maître Lumbulumbu qui a affirmé tout à l'heure que l'M23 c'était le Rwanda, et s'il peut nous donner ses preuves, à ma connaissance, elles ne sont pas encore connues, ça n'est pas encore établi. Ensuite, concernant les bonnes relations entre la RDC et le Rwanda, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça, ou en tout cas que ça s'est un peu compliqué justement dans ces derniers mois. On a vu notamment que le président Paul Kagame n'est pas venu au sommet de l'accord cadre d'Addis Abeba qui s'est tenu à Kinshasa il y a quelques semaines, fin février, contrairement à la plupart de ses homologues. Il y a eu aussi des déclarations à la fois de Paul Kagame et aussi de Félix Tshisekedi qui pouvaient laisser penser qu'il y avait une certaine défiance. Donc voilà, je n'affirmerai pas que les relations sont aussi fluide qu'on a pu le dire. J'ajoute un élément, c'est que le président Félix Tshisekedi s'est beaucoup rapproché de son homologue ougandais Yoweri Museveni ces derniers mois. Il y a eu notamment cette autorisation qui a été donnée à l'armée ougandaise d'opérer dans le Grand Nord pour participer à la traque des ADF. On sait que entre ces deux chefs d'État, Yoweri Museveni et Paul Kagame, il y a aussi une très grande rivalité. Donc, ça peut faire partie des facteurs qui ont aussi contribué à alimenter la défiance entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame.
Et comment vous analysez la gestion de cette question du M23 par le gouvernement congolais?
Alors, lorsque En 2013, le M23 avait été défait militairement. Mais il y avait eu aussi, à l'époque, une série d'accords qu'on a appelé la déclaration de Nairobi, qui devait permettre à ce que les combattants du M23 rentrent en RDC de manière négociée. Bon, ce qu'on sait, c'est que ça n'a pas eu lieu. En tout cas, ça n'a pas eu lieu pour tous les combattants du M23. Il y en a une partie qui sont restés en Ouganda, une autre partie qui est restée au Rwanda, notamment. Voilà, ils ont constitué à être, ils ont continué à être une menace. Et bon, c'est en partie pour ça qu'ils ont pu réapparaître dans l'est du Congo à partir de 2017. Donc c'est un peu regrettable qu'à l'époque on n'ait pas pu en finir, disons, avec ce problème.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler définitivement la problématique M23?
Vous savez, la question de la déclaration de Nairobi, je sais que dans la plupart des réunions, le M23 est revenu sur l'accord d'Addis Abeba. Mais moi, je considère le M23 comme un groupe armé interne qui devait faire parvenir ses revendications plutôt au niveau interne et pas au niveau international. Je me dis que pour régler cette question, il y a une part qui avait déjà été accomplie, c'est qu'il avait été recommandé, notamment au groupe armé, comme il y avait des revendications d'ordre politique, c'est de se constituer un parti politique. Et cette question avait déjà été réglée. Il y a un parti politique, je ne vais pas faire la publicité d'un parti politique ici, qui avait été constitué notamment par le cacique du M23 et qui est régulièrement reconnu au ministère de l'Intérieur. Je viens de là il y a quelques minutes, j'ai vérifié, le nom du parti est là. Donc cette question, elle est réglée. Quant à la question de savoir comment les combattants du M23 pouvaient être intégrés dans l'armée, ma position reste claire, c'est celle qui respecte la loi et qui dit il n'est plus question de favoriser des recrutements de militaires qui devront former les FRDC qui assurent la défense des populations congolaises à partir des groupes rebelles, ça il est hors de question. Donc pour moi, les M23 devraient revenir plutôt à ceux qui les envoient. Ils devront revenir au Rwanda pour demander au Rwanda peut-être de parler avec le président Félix Tshisekedi pour qu'on sache exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Mais moi, en tant qu'institutionnel congolais, je refuse de continuer à cautionner le fait qu'un groupe rebelle peut continuer à mettre à genoux toute la République, toute une province, toute une population pour des revendications, pour moi, qui ne sont que des revendications de postes.
Ce
sont
des revendications de postes au niveau du ministère,
des revendications de postes au niveau de l'armée, et ça, moi, je ne peux pas cautionner.
Alors, est-ce que ce n'est pas finalement cet accord signé entre le M23 et le gouvernement qui est à la base de tout ce que nous observons aujourd'hui, de toutes ces incursions des M23 dans les localités de Rutshuru au Nord Kivu?
Madame, on peut se poser la question de savoir, à l'époque du président Kabila, pourquoi il n'y a pas eu autant d'incursions d'M23 pendant 18 ans. Je sais qu'ils ont attaqué à un certain moment, ils ont été défaits militairement avec l'appui de la MONUSCO. Mais depuis que le président Tshisekedi est là, il y a des incursions répétitives. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? C'est une question que la population du Nord qui vous se pose. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces incursions répétitives d'M23 depuis que le président Tshisekedi est là? C'est là que j'ai dit que le gouvernement central, le président de la République, le gouvernement, le premier ministre et tous les membres du gouvernement doivent prendre à bras le corps la question du M23 et faire la rédivabilité et rendre compte plutôt à la population du Nord Kivu qui est victime de beaucoup d'affres de la guerre. Qu'on tue la population dans la partie de Beni, à partir des ADF Nalou. Maintenant, à partir des Rougnoni, c'est le M23 qui doit tuer. On nous apprend que le M23 est en même temps à Massissi, mais finalement, madame, nous pensons que le gouvernement doit devoir prendre cette question à bras le corps et associer la population, la société civile, les élus nationaux, les élus provinciaux dans cette question pour qu'on sache finalement si le M23 est un arbre qui cache la forêt, qu'on sache quel est le nom de cet arbre-là pour qu'on puisse trouver la solution pour couper cet arbre-là définitivement parce que la population du Nord Kivu ne va pas continuer à souffrir d'années, de décennies en décennies des affaires des groupes armés qui sont mal gérés par le gouvernement central.
Merci Maître Lumbulumbu. On va prendre ces nombreux auditeurs qui appellent sur le standard pour donner aussi leur point de vue par rapport au débat de ce soir. Jean-Claude Mbambazé, on va se rendre à Bukavu pour écouter cet auditeur qui nous appelle.
C'est Vital Nyunda depuis Bukavu au Sud Kivu. Tant que le gouvernement n'a jamais pris de mesures contraignantes pour bouter ces rebelles hors d'état de nuire, ce mouvement ne se fera jamais avec ces attaques et sera considéré comme un clou dans les souliers du gouvernement et dans l'état contraire. Il fallait s'enquérir sur leurs demandes, c'est-à-dire étudier leur cahier de charges. Et si le gouvernement constate que ces demandes sont fondées, on peut répondre positivement à ces dernières, mais si elles ne sont pas valables, le gouvernement peut user de tous ses moyens possibles pour bouter l'ennemi hors du territoire national pour s'en débarrasser une fois pour toutes. Un gouvernement responsable ne négocie jamais avec les rebelles.
Jean-Claude Mbambazé, qu'est-ce que vous pensez du point de vue de Vital Nyunda?
Oui, merci. Donc, il faut vous dire que dans les propos de Vital, il y a quand même aussi cette confusion qu'il est en train de mettre parce que, donc, il demande au gouvernement d'accepter ce que les M3 demandent, mais également il demande que nous, voilà, et, si ça ne rencontre pas la constitution, il doit refuser.
Et étudier leur cahier des charges, si leurs revendications, leurs demandes sont fondées, que le gouvernement puisse y répondre positivement, mais si ces dernières, c'est-à-dire recommandations, ne sont pas fondées, le gouvernement doit user de tous ses moyens pour mettre fin à ce mouvement.
Bon, je crois que même l'honorable Lomulumbula l'a dit, par rapport aux revendications, il y en a qui sont déjà répondus, notamment la question des partis politiques, parce qu'ils veulent les postes au niveau politique, ils sont là, et ils doivent aussi suivre. Et comme on l'a dit, il y a certains qui sont déjà intégrés, notamment les coordinateurs du programme de démobilisation, qui est du M23, qui est déjà en train de gérer les affaires, eux aussi peuvent rentrer. Et surtout, ils ont déjà eu même l'amnistie qui était réclamée. Ça veut dire qu'ils peuvent rentrer comme des citoyens congolais et vivre comme tout le monde. Et que ceux qui veulent avoir de l'emploi, ils vont chercher de l'emploi comme tout le monde, comme nous qui vivons ici au Congo. Et d'ailleurs, quand je vois la déclaration qu'ils ont publiée, la question du 25, le dernier paragraphe, ils disent clairement que ils pensent que, en tout cas, ils vont découdre avec le gouvernement découdre avec le M23, allié pense d'accepter des redditions sans condition. Et même parle des redditions sans condition. S'ils veulent se rendre, je crois que la procédure est simple, ils peuvent se rendre et ils seront reçus comme des Congolais parce que ils se seront déjà rendus et ils vont suivre la procédure. Celui qui va vouloir entrer dans l'armée, il va se faire recruter, bien sûr, en compte des critères d'entrée dans l'armée. Celui qui va vouloir faire la politique, il va faire la politique. Mais penser qu'on va avoir des gains sur la souffrance des populations, sur les morts des populations, ça nous entourera, nous pensons qu'on n'est pas d'accord, mais également du côté du gouvernement. Si rien, les gens ne comprennent pas le langage de la paix, donc il faut que nous conformions aussi à. Faut qu'on arrive à se faire respecter par la force. C'est pourquoi on a l'armée, qu'on a la police. C'est pour dissuader toute personne qui voudrait bien. C'est la quiétude de la population.
Pierre Vasselet, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour régler définitivement cette question des M23?
Bon, alors, c'est toujours très difficile de dire comment régler définitivement. Peut-être qu'on peut rappeler comment est-ce que le gouvernement congolais avait réussi à défaire le M23 à l'époque de 2012-2013. À cette époque-là, il y avait eu, je dirais, trois facteurs principaux. Il y avait eu une réorganisation au sein de l'armée pour la rendre efficace. Il y avait eu le soutien de la brigade d'intervention de la MONUSCO, un soutien musclé et déterminé avec un nouveau mandat. Et il y avait eu aussi, comme je disais tout à l'heure, des pressions de la communauté internationale qui, à l'époque, avait été fortement mobilisée par la diplomatie congolaise. Donc, voilà. Déjà, ça pourrait être, je pense, utile de renouer avec ces facteurs qui avaient permis la victoire. D'après ce que je sais, il y a déjà des unités de la brigade d'intervention qui doivent arriver sur le terrain prochainement, qui sont déjà passées à Goma, donc ça c'est un premier élément. À mon avis, la réorganisation des FARDC, c'est encore quelque chose qui a besoin d'être approfondi, clairement. Et bon, du point de vue de la communauté internationale, je crains qu'elle soit un petit peu distraite par ce qui se passe en Ukraine. Donc là aussi, on aurait peut-être besoin d'une remobilisation. Mais je rappelle aussi donc le fait que même en remportant la victoire sur le plan militaire, il faut trouver derrière des solutions politiques pour permettre à ce que ces combattants non pas soient réintégrés dans l'armée, ce n'est pas ce pourquoi je plaide, mais s'ils sont maintenus dans des camps de déplacés au Rwanda, en Ouganda, sans avenir, sans perspective, il y aura toujours le risque, malheureusement, qu'ils se lancent à nouveau dans ce genre d'aventure. Donc, il faut trouver aussi des solutions politique avec ce groupe. Et j'insiste aussi sur le fait de bien comprendre que le M23 n'est pas, en tout cas, je pense que ce serait une erreur de penser que c'est uniquement la créature du gouvernement rwandais. On a vu au moment où ils ont été défaits en 2013, il y a une partie d'entre eux qui sont allés au Rwanda, une autre partie qui est allée en Ouganda. Donc il y a des divisions en leur sein. Donc Il y a des marges de manœuvre, je pense, pour une stratégie qui soit globale, pour arriver aussi par la politique à trouver le moyen de trouver le moyen d'éviter qu'il soit à nouveau dans le combat et dans l'offensive.
Merci Pierre Boisselet. On va considérer cela comme votre conclusion, Maître Lumbu Lumbu. Il y a Fikiri Tchomba qui pense que ces nouveaux affrontements entre FARDC et M23 est devenu un business dont les tireurs de ficelles ne peuvent jamais abandonner. Comment expliquer un mouvement qui a été vaincu peut résurgir avec force à partir du moment où le gouvernement congolais de l'époque, après que nos vaillants militaires aient mis en déroute cette force nuisible? On n'a pas compris pourquoi le gouvernement avait entamé des discussions avec un mouvement déçu. C'est à ce moment-là qu'il fallait ouvrir l'œil et le bon.
Je pense que l'analyse de notre compatriote Fikiri n'est pas mauvaise. On ne peut pas comprendre qu'une force, un groupe armé qui a été défait militairement, je me rappelle à l'époque, par les FARDC avec l'appui de la MONUSCO, la brigade d'intervention des Nations Unies. C'est à ces moments-là que nous avons vu pour la première fois des drones qui sont venus à la MONUSCO et qui devraient requérir des informations. Ça a fait un succès. Mais il faut dire que cette victoire de FARDC était due d'abord à la pression de la population du Nord Kivu qui ne voulait pas voir les M23 occuper n'importe lequel des localités. Et c'est pourquoi je voudrais appeler à ce moment la population du Nord Kivu à se préparer psychologiquement à résister sérieusement contre les M23. Nous ne voulons pas voir les M23 au Nord Kivu parce que les M23 veut dire les Rwandais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la solution, elle est tout à fait diplomatique. Le rapprochement entre Kinshasa et Kigali n'est pas une mauvaise chose dans le cadre des relations entre États. Mais je pense que les responsables des deux États doivent se parler sur des contraintes les uns sur les autres. Si le M23 apparaît comme une menace, et le M23 en tant qu'un groupe armé initié par les Rwandais, formé par les Rwandais, équipé par les Rwandais, peut menacer le Congo, je pense que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, peut calmement parler au président rwandais, Paul Kagame, pour que le M23 cesse ses aventures en République démocratique du Congo.
Alors, vous parlez du M23 équipé par le Rwanda. Est-ce que vous avez des preuves, Maître Lumbu Lumbu?
Mais il n'y a rien à discuter autour de ça. Tout le monde sait d'où est venu le M23. Non, dites-moi, comment le M23 parvient à se faire équiper? Comment ils parviennent à avoir des armes? Ils ont des armes d'où? Parce qu'ils ne les ont pas de par le FARDC, ils ne les ont pas de par les Congolais. D'où tirent-ils les armes qu'ils ont pour attaquer la population congolaise?
Alors, en conclusion, Maître Lumbu Lumbu, nous sommes à la fin de l'émission.
Donc, en conclusion, je pense qu'il faut que ces aventures du M23 cessent sur le territoire de la République démocratique du Congo. S'il y a des revendications que le M23 peut avoir jusqu'à aujourd'hui, je pense que pour la plupart des revendications, ils ont trouvé des solutions parce que sur le plan politique, ils ont maintenant un parti politique. Il y a certains de leurs cadres qui ont été intégrés dans les programmes de désarmement, de démobilisation et réinsertion communautaire. On sait qui est là et qui vient du M23, mais aussi la solution, je recommande au gouvernement de pouvoir répondre aux besoins logistiques de l'armée congolaise.
Merci.
L'armée congolaise a besoin d'une logistique efficace. Et si l'argent continue à sortir du trésor public et que ça n'arrive pas aux hommes des troupes, j'invite l'IGF à faire des enquêtes pour que les détourneurs de l'argent de l'armée puissent être mis en prison.
Merci Maître Lumbu Lumbu. Jean-Claude Mambazé, votre conclusion.
Oui, ma conclusion, c'est en tout cas demander au gouvernement d'être responsable, de prendre ses responsabilités, d'équiper et de renforcer même le FARDC afin d'avoir toutes ces capacités-là de mettre hors d'état de nuire tous ces bandits. Mais également, il doit aussi aménager aussi, d'aménager des centres de reddition où tous ces combattants vont aller se rendre, aménager quand même des conditions, mettre des conditions favorables pour que les gens qui vont se rendre soient bien pris en charge. Mais également, nous demandons aussi au M23 d'arrêter de faire souffrir la population. Trop, c'est trop. sur des revendications, ils n'ont qu'à venir paisiblement pour se rendre et le reste va suivre.
Merci Jean-Claude Mbabazé, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé. Merci à Paul Badianyama qui était à la mise en onde. Martin Sebouchangwe, Dona Madimba nous a aidé dans la préparation de ce magazine. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.